Good Morning Market sur BFM Business.
Il est 8h31 sur BFM Business et sur AMC Life, le journal avec Léo Dumas.
Elle a une des tensions maximales ce matin au Moyen-Orient. Les hostilités ont repris quand l'Iran a tiré des missiles sur Israël hier soir, justifiant l'attaque comme une réponse au bombardement israélien sur le Liban. Alors Israël depuis a répliqué, les frappes se poursuivent dans les deux sens ce matin. Et Antoine Forestier, on vous retrouve à Washington car Israël réplique malgré les appels au calme de Donald Trump à Benjamin Netanyahou.
Les deux hommes, oui, se sont parlé hier soir. Ça a duré environ une demi-heure selon plusieurs médias. Donald Trump a en effet essayé de persuader le Premier ministre israélien de ne pas riposter contre les Iraniens. Nous sommes proches d'un accord. Je ne veux pas qu'il explose, aurait dit le président américain. Selon Axios, cet appel était beaucoup plus calme, beaucoup moins tendu que celui de la semaine dernière, la dernière fois que les deux hommes avaient échangé. Dans cette courte interview au Financial Times ensuite, Donald Trump a expliqué qu'il était le seul à arbitrer dans ce conflit. C'est moi qui décide, ce n'est pas lui qui décide, a dit le président américain. Sauf que, depuis, Israël a tout de même répliqué. On l'a appris il y a quelques heures désormais. Des cibles militaires iraniennes dans le centre et l'ouest du pays ont été visées cette nuit par Tsahal. Comme quoi, ce coup de pression de Trump sur Netanyahou n'a pas vraiment fonctionné.
Antoine Forestier, depuis Washington, et le baril de Brent lui a dépassé largement les 97$. On va y revenir dans quelques instants. On est déjà à 100 jours de guerre et c'est le secteur aérien qui revoit ses prévisions à la baisse.
Alors, il y aura plus de trafic, mais moins de bénéfices cette année. Selon l'IATA, l'association qui regroupe les compagnies, elle table sur 5,1 milliards de passagers. Ils rapporteront chacun 4,50$, c'est-à-dire deux fois moins que l'an dernier. L'IATA, dont le patron Willie Walsh a aussi profité de son congrès hier pour charger à nouveau les fabricants de moteurs. Ils sont tous mauvais en ce moment, dit-il, et ça coûte cher aux compagnies. Écoutez.
Les défaillances des chaînes de production ont coûté aux compagnies aériennes au moins 11 milliards de dollars en 2025. Les compagnies sont confrontées à des coûts plus élevés en carburant parce que les flottes sont moins efficaces que prévu. Les fabricants de moteurs sont tous mauvais en ce moment. À leur place, je ne serai pas satisfait de mes performances. Arrêtez de nous faire payer trop cher et revenez à la fabrication de bons moteurs qui fonctionnent et qui durent.
Il est 8h33 et il y a encore du mouvement dans le secteur bancaire italien. C'est ce matin Intesa Sao Paulo qui annonce lancer une OPA pour acquérir la totalité des actions de Monte dei Paschi. Elle offre une prime de 12,5% sur les titres de sa concurrente. Mais hier soir déjà, c'est Banco BPM qui a fait son offre aussi sur Monte dei Paschi, proposant là une fusion entre égaux pour donner naissance au deuxième groupe bancaire italien Banco BPM, qui veut aussi d'approuver son rapprochement avec Mediobanca. Et puis en Allemagne, les commandes industrielles flanchent et bien plus que prévu, moins 3,8% au mois d'avril sur un mois selon les données officielles quand le consensus tablait sur moins 2%.
Merci beaucoup Léo Dumas. L'actualité internationale avec Annalisa Capellini. On commence par l'escalade en cours entre Israël et l'Iran.
Oui, qui évidemment concentre l'attention de toute la presse internationale, à commencer par le Financial Times qui a dévoilé l'information de la nuit, puisque c'est aux journalistes du Financial Times que Donald Trump a déclaré, je cite, que Netanyahou n'aura pas d'autre choix que d'accepter un accord avec l'Iran. C'est moi qui décide, a-t-il dit, je décide de tout. Netanyahou ne décide de rien. Voici les mots de Donald Trump qui se dit toujours déterminé à poursuivre les négociations avec l'Iran. Cette attitude de Donald Trump est d'ailleurs très critiquée par la presse israélienne. The Times of Israel estime que Donald Trump est en train de paralyser le pays. Le président américain place Netanyahou face à un terrible dilemme, celui de se soumettre au diktat présidentiel et d'arrêter les frappes, ou alors défier le président et s'engager dans une escalade contre l'Iran au risque de se retrouver complètement isolé. En tout cas, Times of Israel le souligne, le partenariat qui était solide au début de la guerre entre Washington et Tel Aviv est en train de s'effondrer. Constat partagé par Haaretz, un autre journal israélien qui souligne que les médias américains publient de plus en plus souvent des articles hostiles à Israël. Haaretz qui explique aussi que le choix du régime iranien de porter cette escalade signifie une seule chose, que les dirigeants de Téhéran sont en fait de plus en plus sûrs de leur position et de plus en plus sûrs de pouvoir contraindre Donald Trump à des compromis sur le Liban en provoquant, je cite, délibérément Israël.
Une visite également à suivre dans la presse, celle de Xi Jinping en Corée du Nord.
Oui, la Corée du Nord qui est la réussite économique la plus surprenante du monde. C'est ce qu'on lit dans les pages du Wall Street Journal qui raconte que les ventes d'armes à la Russie et les marchandises en provenance de Chine contribuent de beaucoup à la croissance du régime nord-coréen malgré les sanctions et que donc le régime nord-coréen est aujourd'hui plus riche que jamais.
Merci beaucoup Annalisa Capellini, La Bourse. Et c'est une bras-couverture dans 25 minutes. Qu'est-ce qu'on attend ?
Du rouge, plus d'1% de baisse en pré-ouverture pour les grands indices européens. La séance a été agitée ce matin en Asie, que ce soit pour le Nikkei au Japon ou pour le Kospi à Séoul, qui a perdu plus de 10%. Interruption des cotations à prendre un peu plus de 20 minutes afin de calmer les choses. Ça a été de courte durée, hein, puisque certes, on a eu une baisse de 5% aux alentours de 6h du matin. Et puis finalement, là, on s'achemine vers une clôture sur de l'ordre d'idée de 7%. On va encore beaucoup parler de tech cette semaine. SpaceX en fin de semaine. Les résultats de Oracle, mais également Adobe en milieu de semaine. Et puis, au milieu de tout cela, eh bien, le sujet des taux qui revient sur la table, avec bien sûr la BCE jeudi. Et puis, depuis la publication des chiffres de l'emploi à vendredi, de plus en plus d'investisseurs qui commencent à anticiper une Fed plus dure dans les semaines à venir. Alors, pas la semaine prochaine, lors de la première réunion de Kevin Warch, mais plutôt aux alentours de septembre, voire même décembre. En tout cas, le marché anticipe de plus en plus une Fed plus dure. Et ça, ça se voit notamment sur l'once d'or, hein, qui n'apporte pas de rendement. Et l'once d'or qui revient sur ses plus bas annuels, sur ses plus bas du mois de mars à 4 250 $ pour une once d'or.
Once d'or qui a décroché, Bitcoin qui a décroché, le dollar qui est remonté, le Nasdaq qui a fait sa pire séance depuis un
avril
an.
Avril 2025, oui.
On en parle dans le Club de la Bourse dans un instant avec Wilfried Galland et Mabrouk Chetouane qui vont nous rejoindre tout de suite.
Good Morning Market, le Club de la Bourse.
8h39. Le Club de la Bourse aujourd'hui, c'est avec Wilfried Galland. Bonjour, directeur adjoint de Montpensier Arbevel. Et à côté de vous, Mabrouk Chetouane. Bonjour.
Bonjour.
Responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis Investment Manager. On a quand même une ambiance ce matin, Étienne Braque, qui est assez différente quand même de la semaine dernière. Parce qu'on a le Nasdaq, donc, qui a eu une séance compliquée vendredi. On va peut-être avoir une semaine hausse des taux. Cette IPO de SpaceX qui arrive. L'ambiance, c'est un jour une ambiance, Wilfried.
En fait, on sent les marchés aujourd'hui beaucoup plus tendus. Tendus parce que effectivement on va tendre le rapport entre la demande de capitaux et l'offre de capitaux. Ça, c'est SpaceX. Tendu sur les prix. On est passé, ça c'était effectivement progressif dans les cours, mais on est passé du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte sur la partie IA. Et on voit bien que en fait tout a un prix, y compris dans les tokens et y compris dans l'intelligence artificielle, qu'en fait tout n'est pas...
C'est-à-dire que quand on jongle avec les 1000 milliards, on a l'impression qu'il n'y a plus de prix.
Exactement, en fait tout n'est pas à la hauteur des rêves qu'on a pu avoir. Et donc il y a une espèce de retour à une réalité qui est quand même plutôt de bonne aloi compte tenu des parcours qui sont exceptionnels. On se disait avec Mabrouk avant de rentrer sur le plateau qu'en fait, effectivement, on avait quand même enchaîné les records à la fois sur des valeurs et sur des indices qui faisaient que tout était à la hauteur d'une perfection envisagée qui n'est jamais la réalité des marchés, en fait. Et donc là, on a de nouveau des incertitudes sur comment va se passer l'IPO sur SpaceX avec des règles qui ont été quand même tordues un peu dans tous les sens, avec des prix de l'argent qui remontent quand même très fortement. Et donc, on sait que quand les prix de l'argent remontent, ça veut dire que le prix du futur est en train de remonter. Or, toutes ces valeurs, on achète l'avenir, on achète le futur, on achète SpaceX, on achète l'intelligence artificielle dans l'espace. Est-ce que c'est totalement la même chose de l'acheter avec des taux d'intérêt à 3% ou de l'acheter à 5%? C'est pas la même chose. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être revues dans les modélisations. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais effectivement, ça fait pas mal de volatilité.
On va rentrer, Mabrouk, dans le détail avec SpaceX dans un instant, mais c'est quoi votre regard sur ce changement d'ambiance là en fin de semaine?
En fait, on a un changement de paradigme, et Wilfried effectivement évoquait la rencontre à chaque fois d'une offre, d'une demande. Moi, j'ai envie de dire qu'on a aussi, au fond, la rencontre d'une tendance à l'exagération de marché et une tendance à la sous-estimation de la part des investisseurs. On a vu effectivement à chaque fois que la tech était en capacité de délivrer, donc on l'a vu à plusieurs reprises, même au début d'année, les bénéfices révisés à la hausse, etc. Maintenant, dans le cas de SpaceX particulièrement, il y a quand même des métriques qui questionne, pas qui dérange, mais qui questionne, puisque SpaceX, finalement, c'est la conjonction de plusieurs entreprises, donc Starlink que l'on connaît à travers justement les satellites et donc l'offre d'abonnement, qui est la partie la plus rentable. Mais là où le marché mise énormément, c'est sur Starship, la partie effectivement lanceur, et puis on envoie plein de choses effectivement dans l'espace. Ça, effectivement, c'est pas rentable du tout. Et globalement, l'entreprise est valorisée aujourd'hui à 94 fois globalement les bénéfices. C'est absolument gigantesque. Oui. Et globalement, même finalement, dans au moment au pic de la bulle Haïti, on n'avait pas vu finalement des valorisations aussi grandes. Et celles qui avaient atteint des valorisations qu'on qualifiait à l'époque de stratosphériques ont disparu. Donc bon, du coup, c'est pas non plus de bon augure. Bon, alors, je pense qu'effectivement, le marché a tendance à un peu exagérer en quelque sorte, et qu'on aura des forces de rappel une fois que finalement les choses seront installées. Mais on est effectivement aujourd'hui dans un cosmos où globalement, on est à une forme de wait and see. On va voir SpaceX, on va voir les banques centrales par ailleurs. Mmh. On a eu le rapport sur l'emploi, faut le digérer encore. Vous l'évoquiez, la pire séance du Nasdaq depuis assez longtemps, même si on avait enchaîné plusieurs semaines, plusieurs journées de records. Donc là, aujourd'hui, on arrive dans ce moment qu'on qualifie de macro. En quelque sorte, on dit qu'Nvidia, les résultats, c'est maintenant un indicateur macro en quelque sorte, au même titre que le rapport sur l'emploi, les banques centrales. Donc on a quitté cette séance micro pour rentrer dans cette séance macro.
Étienne, 94 fois les bénéfices pour SpaceX, et on demande aux particuliers s'ils n'auraient pas envie d'investir. Enfin, si vous avez un compte Revolut ou n'importe qui vous permet d'aller sur les marchés, là c'est la folie. Vous êtes bastonné de propositions pour acheter du SpaceX.
Tout le week-end, dans le sens où on est sur la dernière ligne droite, et puis surtout ça donne des idées aux petits concurrents. Hein. Typiquement vendredi, il y avait des rumeurs qui évoquaient que Meta réfléchissait à faire une augmentation de capital, comme Alphabet la semaine dernière. Ça montre bien que tout le monde souhaite lever de l'argent au moment où l'argent va peut-être coûter plus cher. En tout cas, vous l'avez bien vu sur la séance de vendredi, le marché obligataire met un prix à tout cela. On a un 2 ans américain qui est à 4,2%. En début d'année, on était à 3,4% quand même. Donc on est sur une remontée significative. Idem sur les taux longs, avec un marché de l'emploi qui est plus robuste qu'attendu. Et puis, on aura la réunion de Kevin Warch la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il y a un consensus qui a du mal à se former sur quelle va être la politique de Kevin Warch, comment ça va se passer sur les remontées des taux. Et forcément, si demain l'argent coûte plus cher, ça va avoir un impact significatif sur ce secteur de la tech qui a besoin de lever massivement des capitaux.
Wilfried, on ne fait pas du conseil valeur, donc la question c'est pas de dire aux gens s'il faut qu'ils achètent ou pas, mais quand même ça interpelle le fait que les règles soient tordues pour SpaceX, ça inquiète quand même.
Je pense qu'il y a effectivement pas mal de choses qui dérangent un peu les professionnels de Wall Street, en particulier le fait que, vous l'avez souligné, on a tordu pour SpaceX les règles d'appartenance aux indices, en fait, en forçant d'une certaine manière toute la gestion passive et la gestion indicielle à acheter du SpaceX directement dès l'introduction, puisqu'ils vont rentrer dans les indices 15 jours plus tard. Donc, quand vous savez que vous avez une valeur qui rentre dans les indices 15 jours plus tard, si vous avez une gestion indicielle, vous êtes obligé, d'une certaine manière, d'acheter cette valeur. Et donc, il y a un certain nombre de mouvements, en fait, forcés par la réglementation, qui va un peu à l'encontre de ce qu'est normalement le marché, c'est-à-dire l'évaluation en toute indépendance des profits futurs avec un certain nombre de risques. Là, d'une certaine manière, on dit vous n'avez pas le choix. Ça va aussi tordre la composition des indices. On va avoir encore plus de technologies à l'intérieur des indices les plus larges. On va encore avoir des différences entre la valorisation des indices les plus forts comme le S&P ou le Nasdaq et tout ce qui vient en dessous. On avait déjà des différences de valorisation très fortes à Wall Street. On va encore rajouter ça. Et donc, il y a cette ambiance un peu de malaise sur cette opération, avec en plus une certaine hystérie de la part de fournisseurs de services financiers.
Mais ça va de Jamie Dimon à Revolut, quoi, sur votre compte particulier. Tout le monde y est, quoi.
Et donc, on sait que ça, quand on a un peu d'histoire sur les marchés, ça rappelle des périodes qui sont pas extraordinaires.
C'est-à-dire 99.
Ouais, exactement. Les périodes.
C'est minuit moins le quart.
Les périodes devenir riche avant que ce soit terminé. Voilà. Donc, c'est jamais très très bon signe. Et les marchés en profite pour justement rappeler que tout a un prix, qu'on a une augmentation, comme Étienne le soulignait, une augmentation des taux d'intérêt, et ça c'est extrêmement important. On va avoir Kevin Warch. Il ne faut jamais oublier que dans les 30 dernières années, à chaque fois qu'un président de la Fed a pris ses fonctions, les marchés n'ont jamais bien réagi. Au début, ça ne se passe jamais bien, parce qu'il y a des changements, et là Warch veut vraiment changer énormément de choses. Et donc ça rajoute du stress encore au marché, c'est-à-dire qu'on a un stress sur le fonctionnement du marché action et le fonctionnement justement des valorisations, et on a un deuxième stress sur comment est-ce que l'environnement monétaire, l'environnement de liquidité, l'environnement même de lisibilité de la communication de la Fed va avoir lieu, puisqu'il veut tout changer sur l'environnement de communication, et ça rajoute effectivement de l'incertitude. On va avoir 15 jours probablement où les marchés vont devoir se réadapter et ouvrir peut-être une nouvelle ère.
Vous êtes un peu inquiétant quand même ce matin, Wilfried. Non, chez toi, on est minuit moins le quart avant une nouvelle crise là.
Non, je suis pas aussi aussi finalement inquiet que Wilfried sur deux points notamment. Donc sur la transition banque centrale, effectivement l'arrivée d'un nouveau chairman à la Fed va devoir effectivement impliquer pour les marchés une nouvelle forme d'adaptation.
Sachant qu'il dit lui-même qu'il veut pas, il est pas là pour rassurer les marchés, quoi.
Donc, non, il est là pour faire un job. Il est là pour, entre guillemets, assurer la stabilité financière.
Très clair,
moi, j'ai cru que c'était son job avant de rassurer les marchés, que c'était le job d'un banquier central.
Ça, c'est learning by doing. Hein. On verra bien finalement où va se mettre la focale. Est-ce qu'il va falloir calmer le stress financier ou soutenir l'économie américaine? Il y a plusieurs paramètres dans la fonction de réaction de la banque centrale. Donc, lisser finalement la période Powell versus effectivement Warsh. Donc ça va être le gros challenge. Et puis, effectivement, Wilfried l'a bien souligné. Il veut apporter des changements. Donc, en termes de communication, on sait que Warsh n'aime pas la forward guidance, n'aime pas, par exemple, le fameux dot plot, les projections médianes, finalement, de la Fed. Ça, effectivement, il veut s'en débarrasser. On est pour, on est contre. On voit que pour la BCE, avoir un dot plot aurait permis, effectivement, possiblement, de faire une erreur de politique monétaire pour ce jeudi. Mais bon, là encore, c'est un autre débat. Et globalement, l'autre aspect concernant, effectivement, SpaceX, c'est que ça concerne effectivement le Nasdaq, en fait, ce braquage, entre guillemets, de règles. Ça concerne pas le S&P 500
oui, qui a... Eux, ils ont dit non.
Eux, ils ont dit non. Donc, et quelque part, là aussi, ça interpelle. Pourquoi, effectivement, forcer, finalement, la main des indices? Ça veut dire que, globalement, l'opération est tellement grosse qu'on ne veut pas, on peut pas se rater là-dessus. Et donc, en forçant, quelque part, la main des investisseurs en disant, vous êtes obligés, finalement, d'en avoir, et en mettant, finalement, du SpaceX tout de suite dans les indices, comme le Nasdaq, 15 jours après son introduction, ça peut effectivement soulever des inquiétudes et des questions. Donc oui, on est sur un moment qu'on ne peut pas rater, entre guillemets. Eux ne peuvent pas se rater sur l'introduction. Et puis, on a tout ce questionnement autour du loyer de l'argent. Donc, lorsque les taux d'intérêt, finalement, augmentent, ça suscite deux interrogations. Est-ce que c'est parce qu'on a une croissance économique beaucoup plus forte et donc, globalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter? Ou bien, fondamentalement, on a des inquiétudes et on va aller, finalement, avoir ces taux qui peuvent, effectivement, refléter des inquiétudes macro.
Donc, à la fin, on est un peu inquiet, quand même.
Mais non, mais alors, nous, on est plutôt, finalement, du camp où consiste à dire, aux États-Unis, on le voit avec le rapport sur l'emploi, c'est solide. Ouais. On a toujours une tendance, et ça, c'est, je me souviens d'un échange qu'on a eu avec Wilfried il y a plusieurs années de ça, où on parlait encore beaucoup de hard landing, soft landing, etc. Et à un moment donné, de quoi on s'est rendu compte? Il y avait un no landing aux États-Unis, ça a continué effectivement sans aucun problème. Donc on a toujours cette tendance à sous-estimer la puissance du cycle américain. Et là encore, déficit de visibilité à court terme, les marchés vont être en mode wait and see, on va attendre, on va temporiser avant effectivement de voir quelle va être la suite pour le S2.
Justement, ces chiffres américains, Étienne, 172 000 créations de postes, le double de ce qu'on attendait.
Sachant que les chiffres du mois d'avril ont également été revus à la hausse. Donc, il y a eu plus de créations de postes de prévues au mois d'avril, mais également au mois de mai, avec certes des destructions dans le secteur de l'intelligence artificielle. On a vu beaucoup de GAFAM supprimer des postes, mais dans le même temps, vous avez le secteur des services qui continue de prendre le relais. Alors, c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde en ce moment, donc vous avez beaucoup de main-d'œuvre en ce moment qui sont recrutées dans l'hôtellerie, la restauration, mais dans le service de la santé, ça recrute toujours. Idem dans les services à la personne. In fine, ça a permis d'afficher des chiffres supérieurs aux prévisions et un taux de chômage qui est ressorti stable à 4,3%.
Bon, robuste cette économie américaine, Wilfried?
Alors robuste, et dans le même temps, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir qu'on n'a pas d'augmentation des salaires aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on regarde en détail les statistiques de l'emploi, en fait, en termes de progression des revenus aux États-Unis, on est sur une très très grande stabilité, on est sur le même niveau qu'on avait pré-pandémie. Pourquoi? Parce que effectivement, ce qui crée de l'emploi aux États-Unis, c'est Étienne l'a souligné, services à la personne, hôtellerie, restauration, c'est pas des endroits en fait où on a des augmentations de salaire très très fortes. On a des augmentations effectivement de nombre de personnes, mais pas des augmentations de salaire très fortes. Donc on est sur un rythme qui est extrêmement flat, ce qui veut dire que les pressions inflationnistes, les tendances inflationnistes de l'économie américaine ne se sont pas déclenchées encore, peut-être, en termes de prix salaire. Et donc ça peut donner l'opportunité à la Réserve fédérale, justement, d'être prudente sur sa politique monétaire, parce que certes, l'emploi va bien, mais ça ne veut pas dire qu'on a cet enchaînement prix-salaire. Ça, c'est effectivement un point que j'ai trouvé très positif.
Pas de hausse de taux à faire dès qu'on arrive.
Voilà, exactement. Ça donne du temps et ça va donner à Kevin Warsh le temps de revoir son mode de fonctionnement, son mode de communication. On sait qu'il veut même changer les indicateurs sur lesquels il va travailler. Hein.
Prenant l'inflation corps, quoi.
Voilà, ce qu'il appelle l'inflation, moi j'ai traduit ça par l'inflation signal recalibré, c'est-à-dire le twin mean inflation. Donc, véritablement, l'inflation, on enlève ce qu'il y a de plus chaud et ce qu'il y a de plus froid et ça nous donne une véritable tendance. Donc, c'est publié, je crois, par la Fed d'Atlanta de mémoire. Et donc aujourd'hui c'est à 2,3% cet indice là, c'est pas 3,2. Donc ça lui donne, en tout cas ça va lui donner le temps, ces statistiques de l'emploi qui sont bonnes sans signaler d'emballement, ça va lui donner le temps d'attendre, et c'est un peu tout ce dont on a besoin.
Il nous reste une minute, Étienne, vous nous dites ce qu'on attend pour l'ouverture. Ça tangue un peu, hein, notamment à cause du pétrole qui remonte, parce que c'est reparti au Moyen-Orient.
Et les cours du gaz également, qui sont sur des plus hauts 3 semaines, 50 euros le mégawatt-heure pour le gaz européen, le Brent qui est donc à 97 $, et en préouverture des grands indices qui perdent un peu plus d'1%. Alors c'est un moindre mal, hein, par rapport au moins 4% du Nasdaq. C'est vrai que le fait qu'on ait assez peu de valeurs technologiques en Europe va permettre à l'Europe de légèrement surperformer. Et puis ça sera intéressant de voir si la vieille économie et le secteur de la consommation surperforment, comme c'était le cas vendredi aux États-Unis, les Procter & Gamble, McDonald's ou encore Johnson & Johnson de gagner plus de 2%. Parce que si l'emploi tient, mine de rien, c'est une bonne nouvelle pour la consommation.
Et on suivra également les nouvelles opérations de consolidation, puisqu'il y a la première banque italienne, Intesa, qui lance une offre de 31 milliards d'euros sur MPS. Là, on a eu Commerzbank la semaine dernière. Là, ça...
Oui, ça commence.
C'est le rapport de Mario Draghi à la lettre.
Oui, peut-être qu'aussi il faut se précipiter en attendant que le loyer de l'argent soit trop fort.
Toujours le même sujet, le loyer de l'argent. Un grand merci Wilfried Galland d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Merci également à Mabrouk Chetouane. Dans un instant, l'ouverture des marchés financiers européens. C'est donc avec Étienne Braque sur RMC Life. Je vous dis à demain. Bonne journée.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Braque.
8h58, dans deux minutes, il sera 9h. L'ouverture de la Bourse de Paris, le CAC 40 étant en nette baisse en préouverture, une baisse de plus d'1%, 1,4%. Ça s'est pas très bien passé ce matin du côté de l'Asie, avec notamment le Kospi à Séoul qui a perdu jusqu'à 10% dans la nuit. Il a fallu interrompre les cotations pendant 20 minutes afin un petit peu de calmer le jeu. In fine, à la clôture, le Kospi a perdu plus de 8%. C'était également compliqué du côté du Nikkei au Japon, avec le secteur technologique, hein, qui était le secteur phare, notamment depuis la fin du mois de mars, qui souffle, que ce soit du côté de l'Asie, mais également du côté des États-Unis vendredi, puisque le Nasdaq Composite a cédé plus de 4%. C'était sa plus forte baisse depuis avril 2025. Nous parlerons de tout cela dans la prochaine demi-heure avec Alexandre Baradez qui sera avec nous depuis IG, et puis avec Aurélien Lux également qui sera avec nous en début d'émission à 9h05 depuis Galilée Asset Management afin de nous partager ses convictions. Promis, nous ne parlerons pas que d'intelligence artificielle. Au milieu de tout cela, Stéphane Colliac nous accompagnera, économiste de BNP Paribas en plateau, afin de revenir sur la petite étincelle qui a quand même provoqué ce sell-off vendredi aux États-Unis, les chiffres dans l'emploi aux États-Unis, beaucoup plus de création de postes qu'attendu le mois dernier, avec notamment le secteur des services, hein, qui continue de tirer la dynamique, et puis dans le même temps des inquiétudes sur la Fed, la Banque centrale américaine, qui pourrait bien relever ses taux d'ici à la fin de l'année. En tout cas, cette incertitude se voit sur le marché obligataire, avec encore ce matin des taux longs et des taux courts qui progressent, un 10 ans américain qui est sur des plus hauts de 3 semaines, au-delà ce 10 ans américain des 4,6%. Quand le Bund est au-delà des 3%, 3,07 précisément, 3,73 pour le 10 ans français. Nous parlerons tout ça dans la prochaine demi-heure, 9h, 9h30, et puis bien sûr à partir de 9h30, vous retrouverez les experts avec Raphaël Legendre. En attendant, c'est toute l'information économique du jour avec Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et à la une, c'est fait, le secteur des télécoms va repasser à 3 opérateurs. Bouygues, Free, Orange vont bien se partager les activités d'SFR dans une opération à plus de 20 milliards d'euros. Et dans le détail, Bouygues d'abord, qui met 8,5 milliards sur la table pour récupérer principalement les offres dédiées aux entreprises. Free ensuite, qui engage un peu plus de 6 milliards pour le bloc Red by SFR. Et puis le reste des abonnés mobiles revient surtout à Orange contre plus de 5 milliards. Tout ça, maintenant, doit être étudié par l'autorité de la concurrence pendant au moins un an. Tous les détails sur ce dossier à lire, bien évidemment, sur bfmbusiness.com. Dans le même temps, il y a encore du mouvement dans le secteur bancaire italien. C'est ce matin Intesa Sanpaolo qui annonce lancer une OPA pour acquérir la totalité des actions Montedei Paschi. Elle offre une prime de 12,5% sur le titre de sa concurrente. Mais hier soir, c'est Banco BPM qui est aussi allé de son offre sur Montedei Paschi, proposant là une une fusion entre égaux pour donner naissance au deuxième acteur bancaire du pays. 9h01, et l'autre titre de la matinée, c'est cette grosse escalade en cours au Moyen-Orient. Les hostilités ont repris quand l'Iran a tiré des missiles sur Israël hier soir, justifiant cette attaque comme une réponse au bombardement israélien sur le Liban. Israël depuis a répliqué et les frappes se poursuivent dans les deux sens à l'heure où on se parle, Annalisa Capellini.
Oui, absolument, avec ces toutes nouvelles frappes iraniennes identifiées par Israël il y a seulement quelques minutes, l'Iran, et qui a aussi ciblé ce matin les bases militaires israéliennes de Nevatim au sud du pays et de Tel Nof au centre du pays. C'est la réponse iranienne aux frappes qu'Israël a menées dans la nuit, les frappes qui ont ciblé des objectifs militaires, selon Tel Aviv. Les médias iraniens, eux, parlent d'explosions entendues à Téhéran, Tabriz et Isfahan, dans l'ouest du pays, et signalent aussi que l'usine pétrochimique de Machar a été endommagée, elle aussi, dans l'ouest du pays. Cette nouvelle escalade, en tout cas, est la première depuis le 8 avril et depuis le début de la trêve, et elle pourrait bien marquer le début d'une nouvelle phase d'embrasement au Moyen-Orient. Pourtant, le président américain s'était encore une fois exprimé pour inviter son allié israélien à la retenue. Juste après les frappes iraniennes, Donald Trump avait indiqué aux médias Axios qu'il allait appeler Benjamin Netanyahou pour lui demander de ne pas riposter. Dans la journée, il avait également déclaré ne pas être content, je le cite, des frappes menées par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon lui, les actions contre le Hezbollah devraient être beaucoup plus chirurgicales. Le président américain, en tout cas, essaye en ce moment de dissocier les deux fronts et d'avancer sur les négociations avec les Iraniens sans être bloqué par le front libanais, ce qui semble être encore une ligne rouge infranchissable à ce stade pour Téhéran.
Merci Annalisa Capellini. La réaction des marchés ce matin, le baril de Brent qui reprend plus de 5% juste sous les 98$.
Qui est en très nette baisse à l'ouverture, moins 1,2% sous les 8200 points, 8123 points. Du côté de l'Eurostock 50, c'est une baisse de 1,3% sous les 6000 points, 5982 points, avec donc ce cours des pétroles qui grappille plus 4,5% ce matin pour le Brent à $97, quand le WTI est à $94. Les cours du gaz également qui progressent en Europe avec un TTF, donc c'est la référence en Europe, qui revient au-delà des 50€ le mégawattheure. Ajouté à cela, comme dit en préambule, eh bien une nette baisse du secteur technologique, et donc vous arrivez ce matin sur une baisse en Europe de plus d'1%. Néanmoins, c'est une surperformance, hein, ce moins 1 par rapport à l'Asie ce matin, ou encore par rapport au Nasdaq qui a donc décroché de plus de 4% vendredi soir à la clôture. Total Energy est la plus forte hausse ce matin à l'ouverture, plus 1,7% à €78, suivi de Orange qui gagne 1,9%. Orange qui est au-delà des €17,70, avec donc cet accord qui a été finalisé ce week-end autour du rachat de SFR. Engie, Pernod Ricard ou encore AXA sont les rares titres à être dans le vert ce matin. À l'inverse, ST Microelectronics perd un peu plus de 3%. Hein. C'était bien sûr l'une des stars depuis le début de l'année, avec un titre qui a été multiplié par 2, voire même beaucoup plus depuis le 1er janvier. €60,94 pour ST Microelectronics, suivi de Airbus ou encore Safran. Le CAC 40 est donc en baisse de plus d'1% ce matin, avec un CAC 40 qui revient sous les 8200 points à 8138 points. Très courte pause, on se retrouve dans un instant avec les équipes de Galilée Asset Management pour parler de valeur afin de garnir vos portefeuilles. Vous entendrez leurs convictions dans quelques instants, et puis ensuite nous reviendrons donc sur cette semaine très chargée qui nous attend sur les marchés, que ce soit avec l'IPO de SpaceX qui est prévu en fin de semaine, les résultats de Adobe et d'Oracle, ça sera mercredi et jeudi, et puis au milieu de tout ça vous aurez bien sûr la BCE jeudi qui est attendue au tournant. Stéphane Colliac, économiste de BNP Paribas, nous donnera ses prévisions en ce qui concerne la Banque Centrale Européenne. A tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Braque.
Et le CAC 40 qui tente de réduire ses pertes. Moins 0,85% à l'instant. 8148 points, moins 1,1% pour l'Eurostock 50. Nous verrons tout cela en dernière partie d'émission, juste avant 9h30, avec Alexandre Baradez qui nous accompagne depuis IG. Juste avant, comme promis, on va parler de trois valeurs pour garnir vos portefeuilles avec les équipes de Galilée Asset Management. Bonjour Aurélien Lux, merci de nous accompagner ce matin en direct depuis Galilée AM où vous êtes analyste. Avec vous, on va parler de De'Longhi, Eaton et Stryker. Commençons peut-être par Eaton, qui est l'une des valeurs qui a été portée par l'intelligence artificielle, dans le sens où c'est un spécialiste du réseau électrique qui n'a pas échappé à la tendance autour des data centers, de l'intelligence artificielle et de tout cet univers qui va avec. Bon, malgré la petite baisse là qu'on a pu voir ces dernières heures, vous restez toujours positif, vous, sur ce segment de l'IA?
Oui, bonjour Étienne, tout à fait. Donc Eaton qui est spécialisé dans tout ce qui va permettre justement aux data centers, aux usines, mais également à tous les bâtiments, donc d'avoir de l'électricité, de l'énergie. Et effectivement, on est positionné sur la thématique robotique et IA avec un acteur un peu différenciant. L'IA est également une histoire de watts. On a besoin d'énergie, on a besoin d'électricité. Un chiffre clé, en 2025, la consommation électrique de l'intelligence artificielle était égale à la consommation électrique de la France. Donc on voit que c'est une thématique qui est vraiment d'actualité, qui a besoin d'électricité. Et oui, on reste positif sur le titre, malgré la baisse très récente de fin de semaine dernière, moins 5% sur les titres vendredi. Ça permet de se positionner sur la thématique d'une autre manière, d'être en amont dans tout ce qui va permettre justement le développement des data centers, tout ce qui va permettre le développement également de tous ces logiciels ChatGPT, Perplexity, qu'on voit se développer de jour en jour. Donc oui, toujours positif sur cette valeur américaine qui est vraiment très intéressante et qui a une croissance du chiffre d'affaires de 9 à 11% en 2026. On s'attend à des mêmes chiffres en 2027-2028, donc des perspectives économiques qui sont très attrayantes pour les investisseurs et du potentiel boursier. Pourquoi pas rentrer aujourd'hui à un point d'entrée qui est plus intéressant qu'il y a 7 jours. Donc toujours très positif sur ce titre pour se positionner sur la robotique et l'intelligence artificielle d'une autre manière et d'être un peu différenciant dans nos choix d'analyse.
Eaton, E-A-T-O-N, qui est coté à Wall Street. Titre qui, malgré la baisse de 5% vendredi, gagne plus de 20% depuis le début de l'année. Un peu plus de 150 milliards de dollars de capitalisation boursière. Autre leader, mais cette fois dans le secteur médical, c'est Stryker, qui aujourd'hui est notamment positionné sur tout ce qui concerne l'orthopédie. C'est bien cela ?
C'est ça, donc on change totalement de thématique, une thématique beaucoup plus défensive, thématique de la santé et du bien-être avec Stryker, donc positionné à la fois dans les équipements médicaux à destination des chirurgiens, des hôpitaux, des cliniques, tous les équipements également orthopédiques à destination des patients. Donc une thématique santé et bien-être, comme on le sait, plutôt défensif, hein, un fonds de portefeuille qui va permettre d'avoir une volatilité qui est beaucoup moins importante. Une valeur, on a beaucoup parlé de cette valeur au mois de mars, notamment à cause d'une cyberattaque qu'il y avait eu lieu d'un petit groupe iranien sur la valeur américaine qui avait justement bloqué les logiciels de Stryker, donc un titre en bourse qui s'est vraiment effondré de 20% depuis le mois de mars. Mais le management a rassuré les marchés en disant très clairement que le premier trimestre a été très compliqué, mais que l'année allait être bonne, que le management validait les guidelines de l'année 2026. Donc nous, on est rassurés un peu après ce discours du management. On se dit qu'aujourd'hui, le point d'entrée est toujours intéressant après cette baisse très massive depuis le mois de mars. Donc ce qui permet justement d'apporter une touche un peu plus défensive et de qualité à nos portefeuilles, d'être positionné sur une valeur américaine qui est également très innovante, qui bénéficie de deux moteurs, à la fois la démographie, avec, comme vous le savez, un vieillissement de la population qui est assez massif dans les pays développés, mais également le moteur de l'innovation, une société qui est très innovante, qui va permettre justement d'améliorer les marges de la société, de développer son chiffre d'affaires, ce qui permet de nous rassurer d'être positionné également sur une valeur de qualité dans la thématique santé et bien-être qui a bien performé depuis septembre 2025, depuis l'accord entre Pfizer et Donald Trump. Donc une thématique défensive, une action de qualité innovante, ce qui nous permet justement de conjuguer à la fois des perspectives économiques, du potentiel boursier. C'est ce qui nous intéresse le plus en tant qu'investisseur. C'est pour ça qu'on apprécie beaucoup cette société américaine, donc Stryker.
Qui perd donc un peu plus de 10% depuis le début de l'année, mais on l'a vu vendredi, il y a une certaine forme de rotation sectorielle qui pourrait, pourquoi pas, durer. C'est un moyen d'avoir un profil un peu plus défensif, c'est bien cela ?
C'est ça. C'est comme une sélection de valeurs, c'est comme une équipe de foot. Il nous faut des attaquants, il nous faut des défenseurs. Et Stryker est clairement un défenseur. On a la Coupe du Monde qui arrive dans quelques jours. Donc on sait que dans un portefeuille qui doit être géré de manière pour viser justement une croissance du portefeuille, une valeur comme Stryker est une valeur clairement défensive. On l'a vu dans la journée de vendredi où les valeurs plutôt tech liées à la robotique et intelligence artificielle étaient très pénalisées en bourse, notamment avec le Nasdaq. On voit qu'une valeur comme Stryker permet de tirer son épingle du jeu, d'avoir même dans des journées qui sont très compliquées, d'avoir certaines valeurs qui performent bien, ce qui permet justement de décorréler un peu le portefeuille et d'apporter justement une touche un peu plus défensive, un autre secteur, un autre segment qui est touché par d'autres méga-tendances. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'investissement thématique et dans le stock picking qui en découle.
Il faut être diversifié en termes sectoriels, mais aussi en termes géographiques. Et pour terminer tout cela, Aurélien Lux, notre entretien, parlons quand même d'une valeur européenne, parce qu'on a parlé de deux valeurs américaines, c'est bien, mais il y a l'Europe quand même. Alors là, on est sur une valeur qui est beaucoup plus petite, hein, c'est 5 milliards d'euros de capitalisation boursière. Il s'agit de De'Longhi.
C'est ça, De'Longhi, une valeur italienne. Je sais pas, vous avez peut-être vu passer la publicité, hein, avec Brad Pitt très récemment qui nous vend une machine à café. Donc c'est vraiment un acteur qui est spécialisé dans les machines à café, dans le café à destination à la fois des professionnels et également des particuliers. Donc on est vraiment sur une société typiquement industrielle, mais qui affiche quand même des taux de croissance assez forts, hein, entre 6 et 7% de taux de croissance de chiffre d'affaires pour cette société italienne. Ce qu'on apprécie beaucoup chez De'Longhi, c'est la qualité de son bilan. 70 millions de trésorerie nette. Donc, on sait que la société est capable également de faire des acquisitions dans les 2-3 prochains trimestres pour se développer à la fois aux États-Unis et en Asie. Ça va vraiment être clé. Et également, De'Longhi, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est aujourd'hui, la société se paye 16 fois les profits. On a une petite qui a déjà bien performé quand même, hein, ces derniers mois, mais une société qui affiche encore du potentiel boursier. Donc, ça nous permet d'avoir trois valeurs très différentes. De'Longhi, plutôt une valeur industrielle innovante, on va dire sur la thématique luxe et lifestyle, plutôt sur la partie lifestyle, la partie premium, justement, où on va avoir une capacité également d'augmenter les prix, d'améliorer les marges sur ces machines à café, et ce qui va permettre justement d'avoir une qualité du bilan qui est très intéressante pour les investisseurs, d'être positionné en Europe sur un acteur mid-cap italien qui se développe de plus en plus en Europe et aux États-Unis notamment, ce qui permet d'avoir justement de conjuguer beaucoup de choses positives pour l'investisseur. Et en termes de potentiel boursier, on trouve qu'il y a encore du potentiel boursier malgré la hausse très récente du titre. Donc une valeur italienne a également, pourquoi pas, avoir en portefeuille pour les investisseurs qui souhaitent avoir une valeur qui est typiquement PEable. Donc c'est ça qui est intéressant également.
Merci beaucoup Aurélien Lux de nous avoir accompagné ce matin en direct dans Good Morning Market, analyste chez Galilée Asset Management, afin de nous partager vos convictions aujourd'hui en portefeuille, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis. 9h15 sur BFM Business, tout de suite on va parler de la semaine très chargée qui nous attend avec notamment la BCE. Ça sera jeudi après-midi. Avec Stéphane Collac qui est aujourd'hui avec nous en plateau. Bonjour Stéphane.
Bonjour Thierry.
Merci d'être avec nous ce matin, économiste chez BNP Paribas. Avec vous, on va en effet parler de la BCE qui tient sa réunion jeudi, qui est très attendue. Et puis également sur ces chiffres de l'emploi quand même qui ont marqué beaucoup d'économistes vendredi après-midi. En ce qui concerne la dynamique de création de postes aux États-Unis, 172 000 créations de postes aux États-Unis au mois de mai, c'est deux fois plus qu'anticipé, sachant que dans le même temps, les chiffres du mois d'avril ont également été révisés à la hausse. Donc, c'est deux surprises positives, en quelque sorte.
Oui, exactement. Et ça veut dire que l'emploi se comporte maintenant mieux que l'année dernière. On se souvient que la Fed avait baissé ses taux directeurs trois fois en réaction à un refroidissement sur le marché de l'emploi. Donc là, on s'attendait à ce qu'il soit temporaire, ce refroidissement. Donc, effectivement, il a été temporaire. Il y a deux aspects, notamment les créations d'emplois dans les services, les loisirs, ce qu'ils appellent l'hospitalité en franglais.
Il y a la Coupe du Monde, ça aide.
Oui.
En tout cas, à court terme, à voir si ça tient dans la durée. Mais en tout cas, ce secteur hôtellerie et restauration a créé beaucoup d'emplois dernièrement.
Exactement, exactement. Puis il y a la santé aussi qui là est en train. Il y a un vieillissement de la population aussi aux États-Unis, même s'il est un peu moins prononcé qu'en Europe, il est quand même là. Donc l'emploi est dynamique. Ça veut dire qu'en fin d'année, le chômage ira probablement en deçà de ce qu'il est en ce moment. Il est à 4,3. On sait que la Fed surveille ça de près. Nous, nous anticipons maintenant qu'il ira à 4. Donc, ça veut dire que la Fed devrait baisser ses taux. Monter ses taux.
Monter ses taux, oui.
Il m'arrive de faire des inversions. Monter ses taux et quand? C'est ça la grande question. Les marchés anticipent que ça soit à 100% d'ici à la fin de l'année, mais quand? Et c'est vrai que Warch arrive ce mois-ci, qui regarde plutôt le Dallas Trim Mean qui est à 2,5, donc qui n'est pas vraiment aussi élevé que le Core PCE ou que le CPI. Comme en 2021 d'ailleurs, et on peut anticiper que comme 2021, la Fed attend un peu. Est-ce que ça sera avant les midterms ou après? Évidemment, après, il peut y avoir un peu plus de confort pour ça. Nous, on anticipe décembre pour la première hausse de taux de la Fed et deux hausses dans les meetings qui suivent. On est un peu tard par rapport au marché qui anticipe ça un peu avant. Ça pourrait avoir lieu objectivement un peu avant parce que le trim mean de Dallas, même s'il est plus bas et que c'est ce que le prochain gouverneur, enfin le gouverneur Warch, qui va inaugurer son mandat lors du prochain FOMC, regarde plus particulièrement, ça va monter aussi, cet indicateur-là. Donc il y aura des raisons d'augmenter les taux directeurs à un certain moment.
L'argent qui coûte plus cher, ça serait une mauvaise nouvelle pour le secteur technologique, hein, qui doit massivement lever des capitaux en ce moment, que ce soit avec SpaceX en fin de semaine, mais aussi avec les futures augmentations de capital, de capitaux à venir. En temps en temps, c'est quand même une bonne nouvelle pour les États-Unis, ces créations de postes, et puis également pour les ménages, parce que c'est vrai que sur ce plateau, ces derniers temps, on disait, bah voilà, le moral des Américains est dans les chaussettes, il est sur des plus bas historiques, etc. Oui. Bon, là, mine de rien, s'il y a des créations de postes, ça veut dire, in fine, que la consommation devrait tenir dans les prochaines semaines.
Oui, et peut-être de façon moins en cas, que ce qu'on pouvait dire jusqu'ici, parce qu'on avait les hauts revenus dont la consommation tenait bien grâce à l'effet richesse sur quelques valeurs, et puis les ménages plus modestes dont la consommation tenait beaucoup moins bien. Donc là, il y a aussi un effet emploi versus IA, qu'on pensait négatif, mais qui semble à court terme positif, parce qu'il peut y avoir un effet substitution entre l'un et l'autre, mais il y a une telle augmentation du volume d'activité, le fameux effet Jevons dont on entend parler de temps en temps, une telle augmentation du volume d'activité en parallèle qui a probablement un détriment plus favorable sur l'emploi, y compris dans ce secteur-là.
Voilà donc la situation des États-Unis. En Europe, on n'est pas du tout dans la même situation, en tout cas d'un point de vue monétaire, hein, dans le sens où les marchés anticipent très clairement une hausse des taux dès cette semaine du côté de Francfort. Est-ce que Christine Lagarde a le choix de remonter les taux ou non aujourd'hui en termes de crédibilité? Elle doit faire cette hausse de taux de 25 points de base.
Alors, on a toujours le choix. Ça dépend de ce qu'on mobilise comme argument. C'est vrai que la BCE met à jour ses prévisions économiques ce mois-ci et que ça sera probablement un bon prétexte parce que on s'aperçoit que l'inflation est plutôt sur le scénario adverse de la BCE, pas si loin, plutôt que sur les scénarios centrales qui avaient été décrits au mois de mars. Donc ce scénario adverse devait inclure des hausses de taux en conséquence. Donc l'argumentaire, il est présent. Maintenant, l'inflation sous-jacente accélère quand même encore assez peu. Donc il y aurait aussi un argument pour attendre. Mais on a vu que les anticipations d'inflation commencent déjà à augmenter. Et c'est ce qui est décisif pour la BCE, puisque 2%, c'est à moyen terme pour elle. C'est pas 2% demain. Et si les anticipations d'inflation à un an commencent déjà à réagir, et à 5 ans, a fortiori, ça veut dire qu'il peut falloir agir dès juin.
Sur l'ensemble de l'année, le marché s'attendait il y a quelques jours à 50 à 75 points de base de hausse de taux. Comment vous vous placez, vous, chez BNP Paribas, au milieu de toutes ces projections qui sont quand même très volatiles, hein, parce que c'est vrai que tout cela dépend bien sûr de la situation en Iran, des cours du pétrole, on le voit encore ce matin, plus 4% pour le Brent à $97. Enfin, c'est pas évident aujourd'hui de tenir la barre sur le long terme.
Oui, c'est vrai que le pétrole joue beaucoup. La transmission aux autres prix joue aussi. Ouais. Il y a deux éléments. Donc, le pétrole, effectivement, on est redescendu un peu. Et puis là, ce matin, on remonte parce qu'il y a eu ce week-end quelques bombardements ici et là. Donc, il y a la question des stocks de pétrole aussi qui est importante. On voit quand même qu'il y a une relation entre le niveau des stocks de pétrole et le prix. Et aujourd'hui, on a eu une hausse des exportations américaines, une baisse des importations chinoises qui ont équilibré les choses sur les 2-3 derniers mois. Mais c'est pas des choses qui vont pouvoir durer éternellement. Et à un certain moment, si on réouvre pas le détroit d'Hormuz pendant l'été, on risque d'avoir un prix du pétrole qui monte. Donc ça, c'est le premier effet additionnel. Et le deuxième effet, c'est la transmission. Pour l'instant, on n'est pas comme en 2022. On n'a pas les contraintes d'offres qu'on avait à l'époque. On n'a pas les pénuries de semi-conducteurs qu'on avait à l'époque. Enfin, tout un tas d'éléments qui sont différents. Donc la transmission au sous-jacent est quand même assez modérée. Mais on sait qu'elle prend du temps. C'est aussi normal de pas l'observer tout de suite. Il est important de pas resserrer non plus à tort, parce qu'il peut y avoir des conséquences pour l'activité.
Quelle est la capacité de la zone euro à pouvoir absorber cette hausse de taux de 25 points de base? Est-ce que, in fine, c'est négligeable? Ou est-ce que, non, il y aura vraiment un impact en dehors, bien sûr, du message qui est donné aux entreprises, aux acteurs économiques?
Alors, si c'est que 25 points de base, c'est absorbable. Évidemment, c'est une directionnalité qu'on n'anticipait pas en début d'année. Les taux étaient plutôt en train de s'assagir. On se demande même si la BCE allait pas baisser ses taux, certainement. Donc effectivement, la directionnalité est déjà pas excellente, mais les marchés l'ont déjà intériorisé. C'est quand on regarde les taux swaps auxquels les banques se financent, ils anticipent déjà que quelque chose est déjà dans les prix, pour tout dire. Donc les taux à l'immobilier ou les taux aux entreprises, en conséquence, ont déjà un tout petit peu rebondi de quelques points de base. Donc si c'est 25 points de base, c'est pas que c'est la même chose que quand ça baisse, mais c'est pas une hausse de 400 points de base comme en 2022. Donc il faut savoir proportion garder.
50 points, là ça commence à se sentir. On passe au niveau d'au-dessus.
Alors ça dépend. Si les 50 points, on les fait deux meetings de suite et qu'on laisse la porte ouverte au prochain. Et là, on peut anticiper que ça ne s'arrête pas à 50 et il peut y avoir un impact plus conséquent. Mais je pense que la situation dans le détroit d'Ormuz est vraiment la clé. Si on reste dans ce qu'on a aujourd'hui, on anticipe que ça se règle dans les prochaines semaines et où le prix du pétrole est en dessous de 100 $, le choc d'inflation est plus limité, 50 points de base, on peut vivre avec. Par contre, si on a véritablement des pénuries, que l'on commence à craindre avant qu'elles surviennent, que le pétrole va à 140, 150, là on entre dans autre chose.
Mais en tout cas, le scénario favorable, hein, dans lequel un consensus s'est formé au mois de mars, au début de ce conflit, c'était de se dire ça va se terminer avant la fin de l'été, d'ici le mois de juin. Bon là, on voit que c'est de plus en plus compliqué, même si Donald Trump n'arrête pas de dire qu'un accord va bientôt se faire. Est-ce que là, chez BNP Paribas, Stéphane Collac, vous êtes économiste, vous êtes en train de revoir un petit peu vos modèles ?
Non, parce qu'on avait déjà tous les scénarios. C'est simplement choisir le scénario dans lequel.
Est-ce que là, le curseur commence un petit peu à changer de scénario ou est-ce que vous vous mettez dans les différents scénarios qui ont été dessinés ?
Alors, pas encore. On est toujours dans le scénario où ça se règle un peu avant l'été. Donc, on avait scénarisé plus exactement que ça se règle à la fin du mois de juin, qu'on ait une réouverture et qu'à ce moment-là, il y ait des flux qui se normalisent en partie. Si c'est après, par exemple, en octobre, si on scénarise ça. On entre dans complètement un autre scénario. Le prix du pétrole va beaucoup plus haut, plus longtemps, et on a des conséquences qui sont beaucoup plus importantes, même pire que le scénario adverse de la BCE, pour dire les choses. Et dans ce cadre-là, on évite difficilement la récession en même temps.
Merci beaucoup Stéphane Collac de nous avoir accompagnés ce matin afin de nous partager vos projections chez BNP Paribas en ce qui concerne la Fed, mais également la Banque Centrale Européenne qui s'apprête donc à remonter ses taux cette semaine pour la première fois en l'espace de 3 ans. 9h24, on va faire un petit détour du côté de la salle des marchés d'IG où nous attend Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre, merci de nous accompagner ce matin, chef analyste chez IG. Bon, le CAC 40 finalement perd 0,8%, c'est du rouge, mais bon, par rapport à ce qu'on a pu voir ce matin en Asie ou vendredi soir du côté des États-Unis, l'Europe tient plutôt bien et pour cause on a assez peu de valeurs technologiques.
Ouais, effectivement, il y a deux sujets qui s'entremêlent ce matin. Il y a effectivement déjà la question de vendredi. On a tous vu cette séance de purge sur la partie américaine avec Nasdaq qui perdait pas de 5%. Et c'est vrai que ce rapport sur l'emploi, c'est finalement le scénario que peu de personnes attendaient. On était plutôt à surveiller les signaux de résilience de l'économie américaine. Est-ce que l'économie allait tenir face à la remontée des prix du pétrole? Est-ce que les consommateurs allaient continuer à consommer? Et finalement, les rapports sur l'emploi, c'est habituel des rapports ni très bons, ni mauvais, dans une espèce de moyenne un peu molle comme ça. Et c'est vrai que ce rapport était particulièrement bon, en fait. Hein, beaucoup plus de création d'emplois que prévu, taux de chômage qui reste stable, des salaires toujours à 3-4 de progression. Et donc, bah, les taux sont retendus. Et là, le marché a bien digéré. Et puis, c'est vrai qu'après ce week-end, bah, effectivement, nouvelle tension géopolitique. Et là, on voit du coup que les taux restent un peu plus tendus, le pétrole reprend 3%. Donc c'est vrai, c'est tout le thème obligataire en fait, hein, qui se remet sur la table ce matin sur les marchés. Est-ce qu'on va avoir des taux souverains qui vont rester plus élevés plus longtemps en raison des questions de pression sur l'énergie et aussi de marché de l'emploi américain? C'est vrai que la Fed aujourd'hui, elle n'a aucune raison de revoir ses scénarios et on va tous guettez avec beaucoup d'attention la première réunion de Kevin Warsh parce que je rappelle, vous l'avez probablement dit déjà dans les minutes précédentes, mais l'inflation américaine qu'on attend cette semaine, le consensus attend une inflation globale qui dépassera les 4% aux États-Unis et une inflation sous-jacente aux alentours de 2,9, donc hein, c'est-à-dire assez nettement au-dessus des 2% d'objectif. Donc c'est vrai que vu que l'emploi est résilient aux États-Unis, bah, la Fed n'a pas de raison de bouger, et sur la question de l'inflation, qui est son deuxième mandat, elle a encore moins de raison de bouger parce qu'avec une inflation à plus de 4% aux États-Unis, c'est ce que le marché attend cette semaine. C'est vrai qu'on attend aucun mouvement de la Fed. Donc, le marché, pour l'instant, il est un peu sous pression parce que il y a effectivement les grosses pressions sur la tech américaine qui ont été un peu purgées. Et puis, bah, effectivement, le marché n'entrevoit aucune hypothèse de baisse de taux cette année. C'est plutôt l'inverse. Hein. Désormais, il y a plus de probabilité, vu par les marchés en tout cas, d'avoir une hausse de taux de la Fed cette année que l'inverse.
Alexandre, vous serez avec nous en plateau jeudi matin. On reviendra bien sûr sur SpaceX, hein, puisque normalement la première cotation, ça sera vendredi, 75 milliards de dollars. Hein, c'est le montant de cette IPO, bien sûr, record. En même temps, il y avait des rumeurs comme quoi Meta cherche également à faire une augmentation de capital, comme Alphabet la semaine dernière. Comment vous regardez un petit peu là ce qui se passe sur la tech? Moins 4% quand même pour le Nasdaq, c'était la plus forte baisse depuis avril 2025, et le fameux panneau des droits de douane de Donald Trump.
Et oui, mais c'est vrai que le modèle qu'on avait jusqu'à présent pendant des années sur la tech américaine, c'est une tech qui était cash rich, hein, c'est-à-dire qui disposait d'énormément de cash, de free cash flow positif, beaucoup de cash, donc qui s'autofinançait en fait ces groupes la plupart du temps, qui avaient des projets à taille normale, j'ai envie de dire, et qui arrivaient avec leur fonctionnement et leur rentabilité habituelle à développer ces projets sur fonds propres. Et ce qui a un petit peu changé depuis maintenant 1 à 2 ans, il y a d'abord eu recours à la partie obligataire. On a vu quelques groupes tech américains lever un petit peu de dette enfin, financer un peu d'activité sur les marchés. Et puis, ce qui est effectivement assez nouveau, c'est d'abord Alphabet, puis effectivement, des rumeurs, des informations de presse laissant entendre que Meta pouvait aussi émettre des actions nouvelles à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour financer tout ça. Et donc, aujourd'hui, c'est des questions du financement de l'IA qui sont en train de se poser. Non pas qu'ils sont remis en cause, mais le marché commence à comprendre que même des groupes de la dimension d'un Meta ou d'un Alphabet, qui sont donc les plus grands groupes américains, eh bien, ont aussi besoin tellement l'activité de développement de l'IA est gourmande en fonds, et bien que il faut effectivement avoir recours à d'autres mécanismes et que finalement les seuls fonds propres ne sont pas suffisants, il faut aller chercher des émissions d'actions. Donc c'est ça, je pense que si le marché essaie de digérer, parce que on a toujours cette question du est-ce que la rentabilité future sera assurée. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de souci aucun dans les résultats qu'on a traversés. D'ailleurs, ces données de résultats étaient excellentes, mais pour autant, quand le marché voit ces grosses opérations financières, ces ventes d'actions nouvelles pour financer l'activité de développement de l'IA, le marché finalement repense en fait à nouveau à la question de la rentabilité. Est-ce que dans les trimestres à venir, cette progression des bénéfices des groupes de la tech sera aussi assurée face à ces montants gigantesques d'investissements qui sont nécessaires?
Merci beaucoup Alexandre Baradez, nous a accompagné ce matin, chef analyste d'IG en préouverture, en tout cas sur les futurs. Les indices américains tentent de rebondir, mais c'est vraiment timide. Plus 0,4% pour le S&P 500, plus 0,7% pour le Nasdaq 100. Ça sera bien sûr à confirmer tout à l'heure à 15h30 dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.